Salut, 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 vous êtes dans l'émission Au fond, près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 pour les lève-tôt ou les couches-tard. Et puis, on a quelques adresses utiles si vous voulez nous joindre, nous contacter, nous envoyer des communiqués, des infos, des contre-infos, des textes, des sons, des critiques, plein de choses. C'est sur une adresse mail, c'est au fond près du radiateur, en minuscule en attaché, @no-log.org. Et puis, pour télécharger toutes nos émissions en podcast, voir les rubriques, c'est le site internet www.aufondprèsduradiateur.fr. Petit rappel, depuis que le FBI a coupé Mega Upload, beaucoup de nos émissions antérieures à celle du 10 mai 2011 ne sont plus disponibles sur le site, donc vous pouvez nous écrire un mail si vous voulez les réécouter. Voilà pour la petite info de début d'émission. On est avec beaucoup de monde ce soir sur le plateau. On va d'abord faire une dédicace et bonjour à tous les copains de l'émission. Il y a Tiffen qui est là.
Bonsoir.
Yamado.
Salut.
Yaraf.
Salut.
Il y a à la technique l'autre meuto, Olive, Mathéo.
Ouais, ouais, ouais.
Salut, salut.
Yeah, yeah, yeah. Et puis on a beaucoup d'invités aussi ce soir. Il y a Léo, Anto et Ulisson qui sont là pour nous parler de la LRU et de la fac de Saint-Denis.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis il y a aussi encore des copains qui sont là et qui ont fait une grosse dédicace, Théo et Amish. Et puis on fait une grosse dédicace aussi à ceux qui sont pas là et qui sont un peu loin, Mouloud, Tom et puis
Sarah.
Voilà. Comme ça on a cité tout le monde. Et j'ai envie de dire qu'on avait un peu envie de démarrer cette émission en douceur avant de s'attaquer à tous ces sujets dont on va parler. On va s'écouter un peu de musique avant de embrayer au fond près du radiateur.
Dans mes larmes et j'arrête pas de chialer. Faut que j'évacue comme une diarrhée. Je sais pas si tu comprends, je me soulage. Fous de rage, j'ai des pages pleines d'insultes. Lâche la bête et elle fait un carnage. Réservé aux adultes, je suis un moteur, poussé à la rupture. Avec tellement de chevaux sous le capot pour pas qu'on me capture. Pur produit de ta banlieue. Là où au carrefour de la vie j'aurais grillé les feux. Et au feu les pompiers quand les véhicules brûlent. Au pied des bâtiments, que des virgules autour de pitbulls. Circule si t'as rien à foutre dans le coin. Soit t'achètes, soit tu vends, soit tu payes ton joint. D'un côté c'est les bénéfs, de l'autre les tiges. Ou la tôle pour quelques piges. Dans ces villes dortoirs, cœur du litige. Où on est tiré du sommeil par la faim. Comment veux-tu qu'on ne pense pas qu'à l'oseille à la fin. Putain j'insiste au combat de coq. Qui troquent leur bec pour un prolique. Tous au chômage chronique, tous malades. Parce que par la racine la fleur pue. Alors on soigne à la médecine douce et à l'air pur.
Peux-tu entendre le silence de ma rue. Peux-tu entendre le silence de ma rue. Peux-tu entendre le silence de ma rue. Peux-tu entendre le silence de ma rue.
Proche de la fin, j'ai bientôt noirci mes feuilles blanches. Et vu que le fruit se décompose, faut que je m'accroche à la branche, pas à ta blanche poudre. Tu serais content de voir mes cellules se parfumer à la soude. Ou mon cerveau dans un dé à coudre, tout pour me dissoudre. Putain de trottoir, jamais trop tard pour trouver de l'alcool dans ce dépotoir. Faut croire que le poison se plaît dans nos quartiers. Vu que c'est le seul à pouvoir circuler sans papier. Et quand c'est pas derrière les barreaux, c'est des gosses à l'hosto. La police musclée correspond contrôle costaud. Hostile, parce que jamais tranquille. Puisqu'ils nous veulent morts ou entièrement docile. Un pour tous, tous pourris, c'est leur nouvelle devise. Donc t'étonne pas si personne te sourit. Incompatible avec tes lois, comme tes règlements. Comme ces putains de décrets que j'arrose excréments. Extrêmement dur dans mes textes, comme sur le pavé. S'ils savaient ce que je ferais si j'étais pété de thunes. Quand j'ai la plume gavée, faut surtout pas que tu me pousses. Avec cette rancune, mais sur le bitume, je les encule tous.
Peux-tu entendre le silence de ma rue. Peux-tu entendre le silence de ma rue. Le silence de ma rue. Peux-tu entendre 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 le silence de ma rue.
Voilà, voilà, un petit son pour commencer. Vous êtes toujours au fond près du radiateur tous les mardis de 19h à 20h30. rediffusée le vendredi matin de 7h à 8h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Voilà. Donc, avant de rentrer directement et de commencer nos sujets, je vais me charger de vous faire quand même un petit sommaire de cette émission qui va être le plus exhaustif possible parce qu'on a une émission assez dense. Donc, quand même, et tout, on va faire ça propre. Donc, déjà, dans un premier temps, on va commencer par suivre une affaire dont on vous avait déjà parlé. Donc, ces rapports au décès de Jamal, voilà, dans la prison de Nanterre. Il y a des nouvelles échéances qui sont sorties et Yano va pouvoir nous en parler. Ensuite, dans un deuxième temps, on fera, Raphaël nous parlera un petit peu voilà, de la mobilisation dans les aéroports en ce moment contre l'instauration d'un service minimum et donc le principe de remise en cause du droit de grève. Et on fera donc le gros sujet de cette émission avec les copains de Paris 8. Et selon un intitulé un peu humoristique qu'on a fait, qui s'appelle donc Transformation de l'université en une usine à produire des civilisations d'excellence. Voilà. Donc on prendra du plaisir à parler un petit peu de ça plus concrètement et à travers les transformations concrètes que les copains ont pu remarquer dans leur fac. Bon, et puis on terminera fatalement par une bonne petite rubrique faf. Et là, par contre, le sujet, c'est comme d'habitude, c'est la surprise. On va donc commencer tout de suite avec Yano qui va nous parler un petit peu des nouvelles échéances qu'on a autour de Jamal.
Voilà, en fait, on se rappelle que Jamal, c'est un jeune homme qui est mort donc au quartier disciplinaire de la prison de Nanterre dans la nuit du 8 au 9 octobre 2011. On en avait déjà pas mal parlé dans l'émission. On avait reçu donc Ariba et quelques-uns de ses proches et de sa famille et de ses amis qui étaient venus sur le plateau pour témoigner avec des personnes du collectif anti-répression de la ville de Nanterre qui sont pas mal aussi mobilisées sur cette histoire. À savoir que comme tout crime raciste et sécuritaire qu'on a l'habitude aussi d'évoquer dans cette émission, voilà, il y a beaucoup de choses floues qui tournent autour du décès de Jamal et beaucoup de choses qui sont imputables donc à l'administration pénitentiaire et plus largement aux institutions qui couvrent ces meurtres, des meurtres qui visiblement sur ce cas-là ont été commis par des matons. Je vais vous lire l'extrait de l'appel du collectif Vérité et Justice pour Jamal qui organise donc une conférence de presse ce 8 février, donc ce mercredi 8 février, c'est-à-dire demain, dans le quartier du Lutte à Gennevilliers. Donc dans la nuit du 8 au 9 octobre 2011, Jamal, 23 ans, détenu de la maison d'arrêt de Nanterre, meurt à l'hôpital. Il était en état de mort cérébrale depuis une semaine. L'administration pénitentiaire affirme qu'il serait pendu au mitard avec un kit anti-suicide. Mais les résultats de l'autopsie et de la contre-autopsie partielle ne font état d'aucune marque de strangulation autour du cou de Jamal. Elle révèle en revanche la présence d'hématomes multiples aux chevilles, aux poignets, aux côtes ainsi que sur le front. Maître Bouzrou, avocat de la famille, a déposé plainte pour homicide volontaire contre des surveillants de la maison d'arrêt le 2 février 2012, donc il y a quelques jours. Des témoignages des détenus et de proches de Jamal indiquent la présence dans cette prison de surveillants qui exercent régulièrement des violences physiques sur les détenus. Le procureur refuse pour l'heure de communiquer à la famille la totalité des résultats de la contre-autopsie de Jamal. Le collectif Vérité et Justice pour Jamal réclame que toutes les pièces de la contre-autopsie lui soient communiquées afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort de Jamal actuellement dissimulée. Donc ils organisent une conférence de presse avec les interventions de la sœur de Jamal, de maître Yassine Bouzrou, donc qui est l'avocat de la famille, de Salah Zawiya, qui est membre de l'AFLID, de Rafik Sheka, qui est un autre membre du collectif Vérité et Justice pour Jamal, et des membres d'associations soutenant la famille et le collectif. Voilà, on en profite aussi pour dire qu'on vous avait donc annoncé cette échéance déjà mardi dernier, qu'entre-temps, il s'est passé quand même quelques trucs au sujet de cette histoire, et notamment avec la mairie de Gennevilliers qui doit attribuer un lieu pour cette conférence de presse. Il faut savoir juste que la mairie de Gennevilliers, au début de cette histoire, après le décès de Jamal, avait plus ou moins été directement intervenu auprès de la famille pour leur apporter plus ou moins un soutien, en tout cas leur dire que lumière sera faite sur cette histoire. Ce qui s'en était suivi, c'était surtout que certains des proches de Jamal s'étaient retrouvés en compagnie du maire pour qui était venu leur dire carrément de calmer les esprits dans la cité du Lutte à Gennevilliers pour pas qu'il y ait trop de révolte suite au décès de leur copain. Et donc voilà, ils avaient un peu servi d'intermédiaire, les proches et la famille de Jamal, pour la mairie. Et donc du coup, on a vraiment l'impression que depuis le début, elle essaye un peu de manipuler les choses pour pas trop salir les mains. Là encore, ils ont fait quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc, ils étaient censés attribuer une salle dans le quartier du Lutte à Gennevilliers pour cette conférence de presse. Aux dernières nouvelles, il semblerait voilà, qu'ils aient fait marche arrière et que la salle soit refusée, qu'on leur ait même peut-être proposé un cimetière. Donc, c'est vraiment presque du cynisme là sur cette affaire. Et bref, toujours avoir ce regard donc, des institutions qui se mêlent voilà, avec plus ou moins de complaisance de ces histoires de meurtres. Et il n'y a pas de milieu. Quoi. Soit on prend parti, on se bat avec la famille pour déjà pour la justice, pour la vérité, mais aussi dans le long combat qui va être mené. Soit on est de l'autre côté, et je suis désolé, on ne peut pas se permettre, comme la mairie le fait, d'un jour dire oui on vous soutient et de faire des coups de Trafalgar de l'autre jour quoi. Donc c'était un peu pour annoncer ça donc, et annoncer aussi que ça serait vraiment important d'être présent donc, au quartier du Lutte demain donc mercredi 8 février 2012 à 18h, donc la salle n'est pas encore communiquée, l'adresse exacte voilà, ce sera métro Asnières, Gennevilliers, les Courtilles normalement. En tout cas, il y a un contact presse si vous voulez vous y rendre, que vous soyez d'ailleurs journaliste, militant ou autre, c'est important de venir soutenir les proches et le collectif qui se bat autour de ça. Donc le contact presse, c'est Justice pour Jamal, tout attaché en minuscule, @gmail.com ou alors un numéro de téléphone 06 60 80 50 50. Je répète, 06 60 80 50 50, c'est important. Si vous voulez avoir l'adresse exacte du lieu de cette conférence de presse de soutien pour Jamal. Voilà. Et puis aussi, voilà, excusez-moi, il faut rappeler aussi que samedi 11 février, toujours sur le thème des crimes racistes et sécuritaires, on en avait parlé aussi la semaine dernière, donc de l'affaire Aboubakari Tandia, il y aura une manifestation donc, organisée par Amnesty International et le collectif Vérité et Justice pour Aboubakari Tandia, donc le samedi 11 février, place Vendôme, donc devant le ministère de la Justice, métro Opéra à 14h.
Voilà, voilà, donc là-dessus, on se chargera évidemment de... d'essayer de faire le lien dans les prochaines émissions et puis on ne cessera jamais de vous répéter que ça continue à être important d'essayer déjà de se battre pour diffuser des informations qui sont cachées de fait, que ce soit par la mairie ou les médias qui collaborent particulièrement bien dans ce type de situation. Là-dessus, on enchaîne avec un autre sujet qui, lui, par contre, concerne donc la mobilisation dans les aéroports qui a lieu actuellement et puis c'est Raph qui nous a préparé un petit truc.
Ouais, donc en fait depuis lundi, il y a dans plusieurs entreprises du transport aérien, il y a une grève contre l'instauration d'un service minimum, donc qui touche, enfin qui, il y a tous les secteurs qui sont en grève quoi. Il y a les pilotes, il y a les stewards et les hôtesses, il y a les personnels au sol, il y a les agents de sûreté. Donc en fait, ça, c'est contre un projet de loi qui est débattu à l'Assemblée depuis le 24 janvier et qui fait suite en fait à la grève qui avait eu lieu fin décembre de l'année dernière où en fait il y avait les agents de sûreté qui s'étaient mis en grève vers la fin décembre, juste avant les vacances, et qui réclamaient des augmentations de salaire et des meilleures conditions de travail. Et donc le gouvernement avait envoyé la police pour briser la grève contre les grévistes quoi, pour faire leur travail. Donc ils avaient envoyé les CRS, les gendarmes, les gardes mobiles et la PAF pour faire leur travail. Et ils ont déposé un projet de loi. Donc il y a eu plusieurs déclarations. Donc les médias qui disaient encore que les gens étaient pris en otage, des choses comme ça, avec des micro-trottoirs, des gens qui se plaignent, tout ça.
C'est ça, genre la nouvelle recherche de la liberté.
Ouais, ouais, ouais. Et en fait, du coup, il y a eu donc le gouvernement qui a envoyé les keufs contre les grévistes. Et Bernard Debré qui proposait de suspendre le droit de grève pendant certaines périodes. Lionel Lucas, qui est un faf notoire, qui proposait l'interdiction de la grève pendant les vacances. Et donc là, il y a un projet de loi à l'Assemblée qui propose en fait de remettre en cause le droit de grève dans les transports aériens, comme ça a été fait dans différents secteurs déjà, Et donc ce projet de loi, il imposerait aux gens qui voudraient faire grève, en fait, de se déclarer 48 heures avant, comme c'est le cas à la SNCF, à la RATP et dans plein de secteurs, quoi. Donc il faut se déclarer 48 heures avant. Toutes les 24 heures, il faut dire qu'on va continuer à faire grève. Et au bout de 8 jours, ça permettrait à l'entreprise d'organiser des référendums, des votes à bulletins secrets pour casser la grève, quoi. Faire voter tout le monde sur une question qui est proposée par l'entreprise, qui est formulée par l'entreprise pour casser la grève. Donc les gens qui ne font pas grève pourraient se prononcer sur la grève, quoi. Donc ça, c'est déjà le cas dans plusieurs secteurs. Donc là, les personnels du transport aérien font grève depuis lundi. Donc ça va durer jusqu'à jeudi pour l'instant. Peut-être la grève va être reconduite ensuite. Donc c'est très fort à Roissy notamment et à Marseille. Sûrement ailleurs, mais les infos qu'on a, c'est qu'à Roissy, c'était lundi, il y a une grosse manif avec plus de 1000 grévistes, quoi. Et je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ouais, mais là, c'est important quand même de voir à quel point, là, tu dis, en plus, elle va être reconductible. C'est vraiment, en plus, on est vraiment pas sur une question salariale, sur une logique de défendre son beefsteak. On est clairement dans une grève qui vise à contrer l'esprit patronal qui veut casser toutes les grèves possibles. Donc, on est dans un conflit qui concerne directement... comment on engagera les luttes à l'avenir, et c'est tout à fait important d'en parler en ces termes, puisque c'est vrai que ce qu'on voit dans les médias, c'est toujours autant de micro-trottoirs de merde. Mmh. Ouais, on se fait prendre en otage, même quand ils luttent par rapport à ça, c'est toujours les mêmes soupes qu'on nous resserre, quoi.
Ouais. Et puis ce qu'on voit, c'est, on l'a vu pendant la grève contre la réforme des retraites en 2010, c'est que c'est de plus en plus dur de faire grève, que ce soit à la SNCF et à la RATP, où il y a eu... ils imposent sous prétexte de continuité du service public. Donc la continuité du service public, un service public de qualité, ça préoccupe le gouvernement quand il y a grève. Mais en dehors de ça, ça ne les empêche pas de privatiser la Poste, de privatiser la SNCF, de privatiser la RATP, etc. Et donc c'est de plus en plus dur de faire grève. Par exemple, pendant le mouvement sur les retraites, les routiers, ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont plus le droit de faire grève avec leurs camions. Qui n'ont plus le droit de faire des barrages, et ça aurait pu peser très lourd dans la grève, et ça aurait pu être un des facteurs qui aurait fait qu'on ait gagné, quoi. Mais dans tous les secteurs, c'était de plus en plus dur. À la SNCF, il fallait se déclarer 48 heures avant, et quand on quittait la grève, on pouvait pas. C'était super compliqué de la rejoindre ensuite, des choses comme ça. À EDF, pareil, il y avait des grèves en 2007. Les gens étaient obligés de... Ils étaient avec leur camion, mais ils portaient des cagoules pour pas qu'on les reconnaisse ou des choses comme ça. À la Poste, c'est pareil. Dans les raffineries, en 2010, on a vu que les grévistes, ils les avaient réquisitionnés. Pareil qu'ils envoyaient les keufs contre eux, quoi. Puis même, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, on peut parler des facs où, quand il y a une grève, on va organiser pareil des votes à bulletin secret et les anti-grévistes vont pouvoir se lâcher, quoi. Ou alors on va fermer administrativement les facs pour qu'il ne se passe plus rien et que chacun reste chez soi ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est un contexte général, et là il y a une mobilisation qui est assez forte. Il y a plus de 50% du personnel qui fait grève dans le personnel au sol, il y a 65% des pilotes et tout, et ça fait que commencer, quoi, depuis lundi.
Bah non.
Ouais, je veux juste rajouter quelque chose, que en fait, la discussion qui a lieu sur cette grève, c'est pas de savoir si les moyens d'action sont légitimes ou pas. Par exemple, il pourrait se poser dans une forme de débat de dire si est-ce que brûler des avions dans une grève aéroportuaire, c'est légitime. La question qui se pose là, c'est pas celle-là, c'est celle de est-ce que les travailleurs ont le droit, pour imposer un rapport de force aux directions et au patronat, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises privées au sein des aéroports, d'avoir le droit de s'exprimer avec la grève. Et je voulais ajouter un autre truc par rapport à la prise d'otage. Quand on parle de prise d'otage, et notamment dans le milieu des aéroports, faut poser la question, on prend qui en otage, quoi, et qui sont les personnes qui prennent l'avion aujourd'hui. Est-ce que c'est tout le monde ? Non. Bon, et donc d'un point de vue de classe, on va dire que c'est plus les classes moyennes et la bourgeoisie qui prend ce mode de transport pour aller, enfin, pour voyager ou pour aller travailler ailleurs. Et qu'on ne prend pas en otage l'ensemble de la population quand on fait ce truc. Et c'est un truc situé quand on parle de prise d'otage au niveau des aéroports.
Et puis même juste pour ajouter, pour compléter ce que tu voulais dire, c'est on parle de prise d'otage, mais aussi on parle de moyens d'action. Et ce qu'il faut que comprennent les gens, c'est que déjà que l'exploitation est forte. Et en plus, les gens qui se disent prises en otage, généralement, que ce soit dans les transports terrestres ou aériens, bon voilà, c'est aussi des travailleurs de temps en temps. Et ce qu'il faut qu'ils se disent, c'est que les moyens maintenant de pression, d'action sur le patronat, sur les différentes têtes dirigeantes qui s'instituent même dans les boîtes privées, et ben c'est ce droit de grève, et c'est comme il est, comme il a été, et c'est par des. Voilà, c'est en les provoquant et qu'on peut se faire entendre. Et donc, c'est pas pour rien aussi que ces gens-là la font pendant les vacances scolaires, c'est le moment où ils ont aussi le plus de chances de bloquer cette entreprise et d'être entendu ou au moins d'instaurer ce rapport de force avec leur direction.
Ouais, parce que le but d'une grève, c'est d'imposer un rapport de force. Par exemple, je sais pas, là, j'avais un exemplaire du Parisien de décembre dernier qui parlait de la grève des agents de sûreté, où il y avait une femme qui disait « Je trouve normal de faire grève, mais il ne faut pas prendre les gens en otage. » Donc, allez-y, faites grève, ne travaillez pas, mais juste que ça n'a aucun impact sur l'économie ou des choses comme ça. Si vous pouvez même aller travailler, puis mettez un petit brassard juste pour dire que vous n'êtes pas content. Et soi-disant, ça suffira, mais on sait bien que ça ne suffit pas et qu'aujourd'hui, pour gagner, il faut des conflits de plus en plus durs et qu'il faut faire respecter le droit de grève et que c'est vraiment important de pas se laisser faire quand il est remis en cause dans tous les secteurs petit à petit, quoi.
Voilà, et puis donc là-dessus on va terminer. Moi je dirais juste que voilà, on a toujours su, et c'était déjà assez connu, que voilà, quand on fait grève dans une entreprise, on a toujours su que localement ça voulait aussi dire prendre des risques, que les gens y jouent des choses, parce qu'il y a des mesures répressives qui ont lieu après des grèves quand on retourne au travail et qui sont imposées aux salariés. Ça, c'était des choses qu'il faut jamais oublier. Les gens, ils se mettent en jeu et donc ils prennent des risques. Et effectivement, là, on voit arriver de façon institutionnelle et étatique des mesures préventives à la grève. Donc on passe d'un aspect répressif à un aspect préventif. Bon voilà, on double les trucs. Là-dessus, je vous laisse à mijoter là dans le bad et on s'écoute un petit peu de son et on reviendra tout de suite après au fond près du radiateur.
Shackled down since birth, nigga. They lock us down, man. My mind ain't confined. I could do this either way, nigga. I'm saying I'm gifted, nigga. Yeah, yeah. It's ab soldier, the slave to the page. With words in the way, try observe what I say. Fire burn, get an urn for a grave. I think worst curse since my birth, I was strange. First, I was raised in Queens, never paid for dreams. Never scared, but nigga, I seen the black, white sun's clean. It's something from the higher power, but I can't follow one's lead. Now some bleed cause of dumb beef. He might have scuffed those shoes. Now you hear son gun scream. Reckless body and nigga, I embody this. Thoughts of warfare's an optimist. I try partying with the devil in the blue dress. She respect my gangster, nigga, no excuses. It's 2/5 to the world and we do this. We put work in and shoot clips, close curtains. For certain prophetic general status, the beast. Something my hunger, so the force of habit. The jam up with the squad is only causing traffic. So make way or bleed, and that's it. Great minds think alike. The great minds think like mine. In one time confined, fail to realize that life is too short to stay deprived. So we live on the grind. The great minds think alike. The great minds think like mine. In one time confined, fail to realize. Yeah. That life is too short to stay deprived, so we stay on the grind. Of course I'm gifted, you talk I live this. Roll up in the bullets and clings, I had thoughts of sinning. I made calls for wisdom, not that I'm trapped behind walls. I'm rinsing what I'm often missing, risking vision to live in the slums. Now I'm sitting, but stand up, right hand up on this mission. Is vivid spitting what niggas isn't. Substance for the function, skipping the bling. It's my assumption that this is the reason niggas can't pump this and witness how I script this. Not from reading dictionaries,
the beneficiary of life lessons. All the real hear me, episodes like in low. See, I gotta go, cause rats tell everything that the cops is no. Never exposed, ab so stand on toes. Behold the life of the great, you gotta make your own legacy. Though we don't know our destiny, steps lead up to it. Peep the memories, everything that we did was for this. So all the wrongs should be forgived. Great minds think alike, the great minds think like mine. At one time confined, fail to realize that life is too short to stay deprived, so we live on the grind. The great minds think alike, the great minds think like mine. At one time confined, fail to realize that life is too short to stay deprived, so we stay on the grind.
De retour au fond près du radiateur tous les mardis 19h-20h30, rediffusé le vendredi de 7h à 8h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Voilà, donc après cette première partie d'émission, on passe à donc le troisième point qu'on avait énoncé dans le sommaire, qui est donc un petit peu voilà, sur... la transformation des universités. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Et là, principalement, ce soir, on a des copains voilà, qui sont à Paris 8, qui sont venus. Et donc, on va plutôt essayer de voir comment, à travers des transformations concrètes et des luttes concrètes, on arrive à comprendre un petit peu aussi un processus qui est pas non plus, qui date pas d'hier et qui a été entamé depuis longtemps. Et puis, un peu aussi comment... l'université s'insère complètement dans une dynamique globale. Voilà. Donc, on va commencer un petit peu. Voilà, déjà, Paris 8, maintenant, c'est Saint-Denis, mais avant, c'était Vincennes. Donc, il faut expliquer un petit peu tout ça. Puis, c'est un petit peu une fac particulière. Donc, est-ce que, Tiffaine, tu peux nous expliquer un petit peu la naissance de Vincennes, un petit peu comment, d'où ça vient, quoi.
Ouais, voilà, rapidement un petit historique, parce que comme tu l'as dit, Mado, on n'est pas n'importe où. C'est un peu, enfin, c'est important de comprendre où on met les pieds quand on arrive à Paris 8, pour comprendre aussi la violence des transformations actuelles dans la fac. Donc Paris 8, tu le disais, aujourd'hui c'est Saint-Denis. À sa création, c'était installé à Vincennes et ça s'appelait pas université, ça s'appelait Centre universitaire expérimental. Et c'était en fait le centre expérimental, il est né, l'idée elle est née pendant mai 68, pendant les mouvements de mai 68. Donc dans un contexte de lutte et à un moment où il y avait tout un mouvement de critique du système éducatif et du système universitaire. Donc on va pas revenir exactement sur le détail des négociations qui a vu un petit peu la mise en place de centres expérimentaux, mais en tout cas le décret d'application il a été signé en décembre 68 et les premiers étudiants sont arrivés en janvier 69 sur la fac.
Donc on est en janvier 69.
On est en janvier 69. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette fac ? Il y a plusieurs innovations. On ne va pas revenir sur exactement tout ce qui s'est passé. Il s'est passé énormément de choses. C'était des luttes internes. Enfin voilà, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau juste des innovations pédagogiques, il y a eu des ouvertures de départements qui n'existaient pas alors dans le reste des facs françaises. Donc art plastique, jusque-là, il y avait les beaux-arts et voilà. C'est arrivé à l'université. Le cinéma, un département de psychanalyse et d'informatique aussi qui se sont ouverts. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne m'en rappelle plus. L'enjeu aussi, c'était donc, du coup, dans ce centre expérimental, là, de repenser un petit peu les rapports au savoir et l'idée de l'université en général. Et du coup, il y avait la tentative de rompre avec une conception d'un savoir qui soit produit par une certaine élite universitaire. Et où du coup tu as un savoir transmis par un prof qui détient le savoir sacré, tout ça, et avec en face des étudiants qui sont réceptacles un peu de la connaissance. Du coup, donc dans ces changements-là, il y a eu des changements dans les formes de cours, il y a eu des changements au niveau des formes de validation. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de cours qui n'étaient pas forcément notés. Si quelqu'un a des détails là-dessus, je veux bien que vous interveniez plus tard. Sinon, il y avait quoi ? Par exemple, au niveau de la manière dont ont été nommés les profs, il y a eu des profs qui ont été élus en assemblée générale dans certains départements par des étudiants et pas par des commissions spécialistes comme il se passe dans le reste des facs et puis maintenant, de toute façon, un peu partout. De toute façon, maintenant, le système universitaire fonctionne uniquement comme ça. Voilà. Après, il y a autre chose qui est important de noter par rapport à Saint-Denis, c'était donc cette volonté-là d'ouvrir la fac à des publics, à des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'y être. Du coup, la mise en place de cours du soir pour que les gens qui travaillaient en journée puissent s'y déplacer. Et autre chose parmi les innovations pédagogiques, c'était l'idée de la pluridisciplinarité et donc le fait qu'on pouvait aller chercher des cours, enfin en gros constituer un petit peu son parcours en fonction de ce qu'on avait envie d'apprendre et donc d'aller chercher des cours dans d'autres départements de celui où on était inscrit. Voilà, et donc ça c'est pour le côté rapport au savoir uniquement. Après, il y avait aussi toute une réflexion sur les rapports entre toutes celles et tous ceux qui font l'université, donc à savoir les étudiants, les professeurs et surtout les travailleurs de la fac. Enfin, quand on parle avec les anciens de Vincennes, en fait, on se rend compte qu'il y avait une idée de communauté universitaire réelle qui passait par un certain nombre de... Enfin, comment expliquer cette idée de communauté universitaire ? C'est un petit peu compliqué, mais parce qu'on n'est pas du tout habitué maintenant à voir ça, en fait. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une coupure entre les étudiants qui viennent chercher leur savoir et les personnels qui font tourner la fac. À Vincennes, il y avait une volonté de penser ensemble l'université. Et...
On n'est plus sur la proposition d'un service, quoi.
Ouais, il y avait vraiment... Enfin, il y avait un pouvoir de création commun, enfin, je ne sais pas, forcément.
Un collectif, c'est...
Ouais, voilà, ouais. Et qui passait par un certain nombre de choses. Par exemple, il y avait la mise en place d'une crèche autogérée, qui fait que, bah, voilà, donc autogérée à la fois par les personnels, les étudiants, les profs, où, en gros, bah, voilà, on gardait les gamins ensemble. Enfin, il y avait une histoire... Enfin, il y avait une vie universitaire, en fait. Pas simplement un endroit où on passe et on vient chercher ses cours. Et en plus de ça, c'est assez rigolo quand on discute un petit peu, avec les gens qui travaillent maintenant à Paris 8. Il y a pas mal de gens, finalement, qui ont commencé leurs études à Paris 8 et qui n'en sont pas partis, en fait. Qui sont restés à travailler donc, dans des services. Il y en a qui ont bossé dans des services dans le ménage, l'entretien et compagnie. D'autres dans l'administration. Enfin, voilà, les gens sont restés à Paris 8. Les gens sont attachés à Paris 8.
Parce qu'ils y ont participé, quelque part.
Voilà, parce qu'il y avait...
Il y avait, par exemple, dans cette dimension aussi, on va dire, de communauté universitaire, une expérience, on va dire, je ne sais pas comment, à quel point ça a été réalisé, mais en tout cas, on en a parlé, une expérience de tentative d'autogestion, on pourrait dire, de la fac. C'est-à-dire en assemblée générale, avec les étudiants, les professeurs, où les professeurs étaient nommés par les biatos, tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec sa complexité, il y avait l'État, etc., c'était les années 70, donc ce n'était pas non plus, on ne parle pas d'une révolution.
Oui,
mais dans cette situation-là, il y a eu, c'est-à-dire une situation d'État capitaliste, la situation où on est maintenant, quoi, cette tentative un peu de fac autogérée. Mm-hmm. Et donc, ça a entraîné, ça a modifié tout, plein d'aspects de la vie commune.
Il faut dire aussi que ça a été l'occasion d'une remise en question complète de la relation entre l'enseignant et l'étudiant, et que ça a permis vraiment de nouveaux cadres d'études où... Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, la petite parenthèse des notations, c'est vrai qu'il y avait notamment des étudiants très prestigieux qui ont participé à la fondation de l'université qui faisaient valider des enseignements comme ça, sans partiel, sans type de notation spéciale. Et donc oui, une complète remise en question de cette position totalement autoritariste de l'enseignant qui vient, qui dispense son savoir et à qui on doit le respect simplement et à qui on est un petit peu assujetti, finalement.
Ouais, donc Vincennes, université un petit peu de réappropriation, université de cantonnement aussi de la critique de 68 et de 69, où le bail prit fin aux alentours des années 79.
Donc là, en fait, il y a eu transition à un moment donné, quoi. C'est ça que tu nous expliques.
Donc voilà, oui, il y a transition, il y a déplacement de l'université de Vincennes à Saint-Denis.
Okay.
À un moment donné, le bail prend fin. C'est-à-dire que Vincennes était construite sur le terrain militaire de Vincennes.
Mm-hmm.
Donc c'était un contrat qui avait été passé entre des personnes ayant la volonté de constituer une nouvelle université, une nouvelle manière de la penser et un nouveau rapport au savoir, et l'armée, d'où le fait qu'on puisse voir cette création de Vincennes comme un cantonnement de la critique dans un endroit bien précis. Donc le contrat de concession prend fin du terrain militaire. Les Vincennois de l'époque ne voulant pas partir, une lutte se crée. Donc il y a plusieurs photos, il y a plusieurs films qui sont... qui sont disponibles. On peut aller regarder sur le site de l'Université Paris 8 pour avoir quelques images ou quelques films ou quelques commentaires également. Et donc lutte. Et lutte qui se termine par la destruction pure et simple par les bulldozers de l'armée en une nuit de l'Université de Vincennes qui sera déplacée à Paris, à Saint-Denis.
Actuel Paris 8.
Voilà, Saint-Denis actuel Paris 8, au lieu où il y avait un IUT, donc le bâtiment central et l'ancien IUT.
Voilà, pour la petite anecdote, en fait, pour recontextualiser un petit peu, Vincennes, c'était le centre expérimental, c'était au milieu de la forêt. Donc quelque chose qui n'a jamais été vu, c'était un contexte totalement naturel et très propice aux nouvelles expériences qui s'y sont développées. Et surtout, cette nuit-là, cette fameuse nuit-là où les bulldozers sont venus tout détruire, il y a une petite anecdote sur les étudiants d'art de l'époque qui avaient fait des sortes de peintures magiques tout autour de l'université en pensant que ça la protégerait justement de cette attaque sournoise.
Voilà, donc lieu de toutes sortes de tentatives à ce moment-là, Vincennes.
Donc,
ouais, c'est vrai que c'était un truc de toutes les temps. Enfin, mais il y a eu, on veut, c'est vrai qu'il y a eu le cotentement d'un certain nombre de critiques de profs qui étaient donc engagés plus ou moins dans la lutte de mai 68 et qui en gros sont mis entre clans avec eux. Ils ont mélangé tous les courants gauchistes là, pour peser universitairement un peu et ils sont rangés là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un contentement réel, c'est-à-dire que quel que soit le gauchiste des années 60-70, a convergé à ce moment-là vers un peu en partie, tu vois, vers ce. Et donc c'est vrai qu'il y a eu ce contentement-là, mais par contre, au début en tout cas, il y a eu une politique qui était aussi celle de la massification de l'université aussi, qui correspondait à un moment donné où de plus en plus de gens allaient des classes moyennes, ce qui n'est plus le cas, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas la même période. Et donc, toutes ces questions-là qu'on disait, genre, quand t'as pas le bac, les cours du soir, et que t'as les diplômes faciles, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par là, qui ont eu des bons trucs, des bonnes formations, ils ont eu des diplômes faciles. Enfin, ça a aussi joué son rôle dans cette dimension-là. Faut pas en faire qu'un truc qui était...
Bon, et puis, ouais, bon, rappelons aussi que le but en soi n'était pas forcément d'avoir un diplôme, ce qu'on va retrouver comme nécessité aujourd'hui dans la fac moderne, entre guillemets. Et que beaucoup d'étudiants allaient au cours simplement pour écouter le professeur ou pour acquérir du savoir, parce qu'ils étaient travailleurs et qu'ils n'allaient pas forcément à l'université pour retrouver du travail, c'est travailleurs, et ils voulaient en même temps apprendre à penser et puis dépasser un petit peu la limitation dans le travail et la limitation de la pensée dans le travail pour fonder sa critique. Donc voilà, il n'y avait pas que... la notion de diplôme n'était pas forcément au cœur de l'enseignement
de l'université.
Voilà. Donc voilà. Donc 79, fin de Vincennes, déplacement à Paris 8, à Saint-Denis. Déplacement à Paris 8, à Saint-Denis. Donc il y a beaucoup d'histoires sur les dissensions entre professeurs, la nouveauté avec l'arrivée à Paris 8... je ne sais pas exactement à quelle période Paris 8 perd son statut de centre expérimental, mais...
Non, vas-y, bon, continue.
Mais toujours est-il que l'histoire de Vincennes continue à être portée par le déplacement à Saint-Denis, avec une certaine ouverture sur l'extérieur, avec encore beaucoup de personnes salariées qui allaient à l'université, avec... avec un rapport pédagogique qui était encore issu de Vincennes, une transdisciplinarité qui était encore très forte, très poussée.
Donc c'est un moment de transformation où il y a encore
voilà,
des
un moment de transformation,
qui
mais
perdure,
où l'histoire est encore bien présente et bien marquée
voilà.
au sein de l'université. Et donc nous voilà dans les années 80. Donc de 80 aux années 90, on peut corréler ça un petit peu à la mise en place de l'Union européenne. Hein. Rappelons le grand tournant du néolibéralisme européen 86, l'acte unique européen et le traité de Maastricht 92. Donc la fac va un petit peu, parallèlement à la société, vivre cette transformation néolibérale, libérale, capitaliste. Les mots ne manquent pas pour pouvoir décrire cette situation historique.
Bah justement, comme il le disait juste avant, aussi bien Vincennes correspondait aussi à une certaine situation dans une réalité sociale et dans une société globale, aussi bien
de rapport de force,
aussi bien dans les années 80, c'est aussi un moment de transformation dans la société en général, ouais. Des immenses boucheries, on les sait tous, on va pas peut-être les énumérer là, parce que bon, voilà. Et donc, fatalement, on voit aussi comment ça impulse une transformation au sein de l'université, bien qu'il reste un héritage, parce qu'on est plus proche, tout simplement.
Voilà,
même
sans le déplacement du cadre de pensée.
Ouais. Voilà. Okay.
Et il y a une, à partir de ces moments-là, il y a justement un combat, une fracture entre ces gens qui sont issus de cette histoire et de cette culture ou de ces idées qui ont circulé à ce moment-là, et à un moment de l'autre côté, des gens qui sont dans cette optique managériale et tout. Et là, ça devient horrible parce qu'on a des anciens. C'est là où la pensée, vraiment, on a eu le croisement, là où il y a eu la pensée, une pensée libérale, des autogestionnaires plus ou moins des années 70, soi-disant socialistes, qui deviennent des libéraux, type les Rocades. Tout ça, ça a baigné aussi à Paris 8 intellectuellement. Et c'est là où c'est aussi... alors là, il y a un aspect complètement horrible dans Paris 8. Toutes ces ambiguïtés, justement. Voilà. Toutes ces ambiguïtés, ces compromissions, au fur et à mesure des années, de gens qui ont aussi fait ces transitions-là et qui maintenant tiennent des positions des années plus tard qu'on retrouve et qu'on connaît, quoi.
Ouais,
donc,
bien sûr.
Il y a aussi, c'est vrai, j'y pense, parce que putain, on y a passé quelques années, t'as un seum incompressible.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet d'ouverture sur l'extérieur quand on arrive de Vincennes à Saint-Denis à une progressive fermeture que l'on peut voir avec de moins en moins de manifestations et de participation des personnes de la ville ou d'ailleurs à la ville université. Bon, on peut citer la Passade, NTM qui ont fait leur premier pas sur la radio à Paris 8 avec la Passade. Beaucoup de graffeurs qui sont passés par Paris 8 pour repeindre un petit peu au goût de la localité cette université qui appartenait aussi à ce terreau.
Et aux gens qui s'investissent dedans, quoi.
Voilà, oui, complètement. Complètement. Et donc, à un moment donné, on voit quand même un passage avec voilà, là, des choses bien tangibles qui commencent à s'éteindre et par exemple la disparition de la crèche ou des choses comme ça où là, il y a des nouveaux combats qui se mettent en place. Mais pour sauvegarder un esprit plutôt qu'essayer de le déployer ou de le développer. Okay. Et là, effectivement, on arrive dans les années 90 et ce qu'on va aborder.
Juste après, voilà. Exactement. Donc là, on a un petit peu fait le tour. On fait une petite pause musicale. On respire et on vous laisse reprendre.
Des mots pleins l'écran, en boucle en grand. Des cénacles au plateau, des plateaux aux éditos. Ces mots comme l'hymne royal, de la fringale, des squales. Ces mots, ces cerfs, ces crocs, exonérés d'impôts sur ma sueur et ma peau. Flexible et souple, privatisé au double. Ces mots qui ne laissent rien, laissent crever, laissent faire. Ces mots qu'on tire tout chaud de la cuisse d'un Francis Maire. Ces mots qui ont le bâton, le bras long, la sympathie du fisc et les fluctuations du CAC 40 pour Horizon. Ces mots qui montent en grade selon la marge et l'offre. Ces mots qui montent la garde de chaque côté du coffre. Ces mots qui traquent mon froc, ma thune et mes allocs. Mes pauvres 507 heures et mon ticket modérateur. Ces mots qui se marrent déjà du peu qu'il restera et qui te souffrent que le beau gâteau là-bas n'est pas pour toi. Maître aux mots et mots du maître. Maître aux mots à suivre à la lettre. Ordre des mots et mots de l'ordre. Ordre des mots dressés pour mordre. Ces mots dans le barillet des sécurités qui retrouvent ma trace et ouvrent la chasse. Ces mots sans sommation, sans scrupule ni regret. Ces mots à te faire peur, ces mots à te faire taire. Ces mots qui regardent ailleurs quand Habib est tué à terre. Le 9 bis pour foudre à mortuaire. Ces mots qui ont dans la poche un juge et une quinte floche. Ces mots qui ont dans l'œil la poutre d'une guerre sans deuil. Souvenir au cri du temps béni des colonies. Pour peu qu'on gratte, pour peu qu'on se batte, pour peu qu'il craque, ces mots quoi qu'on y fasse, qui refont toujours surface. Ces mots, ces coups, ces coupables désignés. Ces mots à mettre, ces mots rico, ces mauvaises bêtes à mauvaise peau. Ces mots que je porte si bien qu'ils collent à mon ADN. Ces mots que je porte si loin qu'ils en deviennent des chaînes. Maître mot et mot du maître. Maître mot à suivre à la lettre. Ordre des mots et mots de l'ordre. Ordre des mots dressés pour mordre. Maître mot et mot du maître. Maître mot à suivre à la lettre. Ordre des mots et mots de l'ordre. Ordre des mots dressés pour mordre. Thank you.
Voilà, voilà, de retour au fond près du radiateur, tous les mardis, 19h, 20h30, rediffusé le vendredi de 7h à 8h30 sur FPP, fréquence Paris, pluriel, voilà. Donc, on a commencé donc, le troisième point de cette émission. Si vous avez manqué les deux premières parties, c'est tant pis pour vous. Je vous fais quand même la petite intro pour que vous sachiez où on en est et de quoi on parle. Donc, principalement, on parle un peu de la libéralisation de l'université, des transformations de l'université particulière de Paris 8 avec, avec des copains qui sont là. Et on a pu, dans la première partie de ce sujet, aborder bien, poser la situation, le cadre, un petit peu d'où est-ce que ça venait, quelle était la tentative originelle. Et voir un petit peu comment est-ce qu'on était passé d'une volonté de rechercher quelque chose, de peut-être innover quelque part, et de mettre par une critique un petit peu de ce qui était donné dans l'enseignement en général, et que dans les années 80 c'était un peu mise en place une dynamique de conservation un petit peu plus que d'innovation de ce qui avait été déjà réussi à faire. Et donc on se trouve actuellement à la fin des années 90. Et donc, Paris 8 est actuellement à Saint-Denis et plus à Vincennes. Et ça débouche sur tout un tas de problèmes concrets et locaux qu'on voit aujourd'hui et dont on va vous parler un petit peu. Et là-dessus, c'est Léo qui va nous expliquer un petit peu tout ça, quoi.
Ouais, donc je vais essayer de faire un peu un tableau de ce qui est en train de devenir l'université ou ce qu'elle est déjà, qui va être un tableau un peu plus noir que ce qu'on a essayé de présenter sur Vincennes, sans tomber dans une apologie de ce qu'était Vincennes et qu'on voudrait que ça redevienne cela. Donc, pour essayer de montrer un peu les conséquences concrètes de cette transformation, notamment dans les nouvelles logiques de l'université, il y a le fait qu'il faut que ça soit plus rentable et qu'on ne peut pas se permettre que des départements où il y aurait peu d'étudiants ou qui serait sur le long terme peu intéressant pour le marché du travail ou pour ce qu'est le monde social en général, soit supprimé. Et par exemple, à l'université de Paris 8, il y avait un département d'anthropologie avant qui s'était scindé du département de sociologie et qui était quand même assez gros. Et là, ça fait plusieurs années qu'il y a seulement la troisième année qui existe. Et là, à la fin de cette année ou à la fin de l'année prochaine, ce département sera supprimé. Et c'est un peu la même chose pour ce qu'on appelle vulgairement les langues minorisées dans les facultés, qui sont les langues pas reconnues comme l'anglais ou l'espagnol, mais qui sont des langues un peu moins connues et qui sont de plus en plus ou rétrécies en termes de postes pour les enseignants, ou sinon qui sont totalement supprimées. À l'université de Paris 8, moi quand je suis arrivé il y a 5 ans, on pouvait faire du breton par exemple ou du quechua, et c'est des langues qui sont en train de disparaître. Après, ça c'était le premier point. Je vais essayer de passer un peu à ce qui est posé un peu dans la LRU, le fait que l'instance hiérarchique qui est la présidence accède à plus de pouvoir et où il y a une forme de centralisation du pouvoir. C'est-à-dire que les conseils d'administration et les conseils de la vie des étudiantes ou le conseil scientifique sont dépossédés du pouvoir qu'ils avaient, mais aussi de la relation qu'ils pouvaient avoir entre les formes de lutte ou de mobilisation et les syndicats vis-à-vis de la présidence sont réduites pour le profit de la présidence. Par exemple, il y a eu pour donner un exemple plus concret, il y a eu une assemblée générale avant les vacances de Noël, parce qu'il y a eu un nouveau logiciel qui a été installé, et donc cette assemblée générale demandait une augmentation du personnel pour que...
Comment il s'appelle ce logiciel, s'il te plaît ?
Ce logiciel, il s'appelle Apogée, mais je vais juste parler de ça et je vais développer justement ce logiciel, ça a un peu cristallisé les tensions qu'il y a depuis plusieurs années au sein de l'université. Et donc, quand on est arrivé vers la présidence pour demander justement d'embaucher du personnel pour pas que les personnels qui sont à l'université aujourd'hui fassent beaucoup plus d'heures qu'ils ne le font, la réaction de la présidence est non seulement qu'elle nous a plus ou moins ri à la gueule, qu'elle n'a sûrement pas accepté la revendication, et qui est un peu typique de ce qu'on peut trouver dans les entreprises aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire de la relation entre les deux instances, entre le pouvoir ou le patronat qui serait dans une entreprise et l'instance plus des travailleurs ou des clients de l'université, qui sont repoussés à la non-possibilité d'avoir à dire quelque chose sur l'université. Comme si l'université, c'était la présidence qu'il faisait. Et que, enfin, je ne sais pas ce que serait une université sans les étudiants ou sans les personnels, pour le dire de manière plus simple. Après, pour donner un exemple, il y a eu cette rentrée universitaire cette année. Donc, toutes les rentrées universitaires sont en général catastrophiques à Paris 8. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnel pour engranger l'ensemble de la demande d'inscription à la fac des personnes ou l'ensemble de tous les problèmes qu'il peut avoir quand on rentre à l'université, que ce soit aussi bien les titres de séjour que les bourses ou que d'autres problèmes. Et donc cette année, il y avait des files d'attente de plus en plus longues. Et donc les personnes ont pu s'inscrire que plus tard. Et c'est-à-dire, nous, on rentre normalement début octobre. Et on s'est inscrit à la fac jusqu'à fin octobre, début novembre. Et notamment pour les personnes qui passent dans ce qu'on appelle dans notre université les commissions de dérogation, qui sont des commissions où on peut en fait rentrer à la fac après la session de septembre. C'est-à-dire que quand on n'a pas réussi à trouver de fac début septembre, on peut rentrer à Paris 8 via cette commission. Sauf que cette commission se tient souvent fin octobre et début novembre. Et donc, il y a des étudiants qui commencent à avoir leurs réponses et pouvoir rentrer en cours fin novembre, début décembre. Et c'est des personnes qui arrêtent la fac en cours d'année après parce qu'ils ont loupé tellement de semaines de cours que non seulement les enseignants les envoient chier en leur disant « Écoutez, j'accepte personne qui a loupé 2 mois de cours. » Et ou sinon qu'ils ne comprennent rien au cours parce qu'ils ont loupé un contenu trop important pour pouvoir valider. Et ça, c'est les formes d'exclusion concrètes qu'on peut trouver dans ce qui est en train de devenir l'université. Et où si on dit que l'université est ouverte à tous et donc se donne les possibilités que toutes les personnes qui veulent y accéder ont les moyens de le faire, ce genre de diminution des effectifs de l'administration ne le permettent pas. Je vais passer maintenant à... je voulais un petit point. D'ailleurs, les personnes qui inscrivent les gens à la fac sont des personnels qui sont... C'est des emplois étudiants ou des emplois précaires pour entre 1 et 4 mois. Et ces personnes, quand ils ont comme... Ces personnels donc, de l'université qui sont précaires pendant quelques mois, n'ont non seulement pas eu de contrat pendant plus d'un mois, et non seulement n'ont pas été payés les 2 premiers mois. C'est-à-dire qu'ils continuent à travailler sans avoir de l'argent, en fait. Sans avoir de l'argent et sans être rétribués de leur travail. Pour plein de problèmes au niveau de l'administration, d'établir ses fiches de paye, de faire des virements au niveau de la comptabilité, ou ce genre de choses.
Oui, d'ailleurs, sur le point de la précarisation et des emplois étudiants nouvellement mis en place à Paris 8, parce qu'avant, il n'y avait pas que les emplois étudiants qui existaient, d'autres emplois peut-être un petit peu moins précaires pour des étudiants ou pour d'autres personnes qui n'étaient pas forcément étudiants parce qu'avant, il y avait aussi la prise en compte de la précarité des personnels ou des personnes qui vivaient aux alentours de l'université et qu'on pouvait connaître. Et donc, leur permettre peut-être de trouver un petit job pour 1 mois, 2 mois, ce qui pouvait, pour tout un tas de biais, leur servir, une réinscription sur les listes de chômage, une réinscription pour... Bon, bref. Donc, sur ce petit point-là des contrats étudiants, je ferai un spécial big up à une association étudiante qui se reconnaîtra, n'est-ce pas, hein, qui commence par un U et qui finit par...
Non, on lâche tes blazes ici, on lâche tes blazes.
Donc, un spécial big up à cette association-là qui s'est vantée pour la négociation de la LRU en 2007 avec le Premier ministre de mettre en place ces contrats étudiants super précaires pour les étudiants. Donc, merci à cette association.
À l'UNEF, donc.
Voilà.
Voilà. On est des poucaves, on s'en fout.
Et donc, par rapport à ce truc-là, la question, c'est est-ce que ces déficiences au niveau du fonctionnement de l'université sont relatives à moins d'argent que l'université possède, donc c'est-à-dire la baisse des dotations de l'université qu'on peut trouver, enfin qui est une réalité, que les universités ont moins d'argent pour fonctionner. Et la question, c'est est-ce que c'est relatif à ça que l'université fonctionne moins bien ? Quand on regarde les budgets un peu de l'université de Paris 8 aujourd'hui, je vais donner quelques chiffres. En fait, on a acheté un nouveau logiciel, donc ce fameux truc qui s'appelle Apogée, qui a coûté 200 000 euros. On a acheté des écrans plats qui ne marchent toujours pas pour nous montrer la vie des étudiants au soleil, sur des terrasses, avec ce qui se passerait sur la fac, qui coûte plus 220 000 euros. Et notre cher président s'est refait faire une salle de conseil qui coûte, elle, encore un peu plus cher, 1,5 million d'euros. Donc, et ce genre de choses, d'utiliser de l'argent et des sommes astronomiques pour acheter des choses qui vont enjoliver l'université, qui vont faire... excusez-moi.
C'est une vitrine, en fait.
Voilà, qui est une vitrine, une forme de façade. Et c'est ça, quand on parle d'université d'élite, c'est est-ce que c'est l'élitisme dans le savoir ou est-ce que c'est faire des belles façades de l'université, faire qu'elles soient prestigieuses du dehors et au sein de l'intérieur de l'université, que les trucs soient de plus en plus dégradés, quoi. Quand nous, par exemple, moi, j'ai des cours, il n'y a pas de chauffage dans les cours, les toilettes, ils sont pourries.
Ouais, on est sur du plus concret, quoi, plus simple.
Plus simple. Bon, vous voulez dire un truc avant que je passe au logiciel ?
Non, vas-y, donne-nous tout sur le logiciel.
Bon, alors maintenant, je vais commencer à expliquer parce que donc il y a une lutte depuis un an et demi qui s'est cristallisée autour de ce logiciel qui s'appelle donc Apogée, qui est un logiciel qui a été installé dans plein d'universités et qui gère en gros la scolarité des étudiants, que ça soit au niveau des inscriptions, qui rentre les notes et qui délivre le diplôme, quoi. C'est le logiciel administratif qui permet de rentrer tout à l'intérieur. Déjà, ce logiciel, on l'a pris à l'extérieur de l'université, on a payé donc, pour avoir ce logiciel. Et avant ce logiciel, à Paris 8, on avait un logiciel qui s'appelait Félix et qui avait été conçu et construit à Paris 8, qui était gratuit et qui pouvait être modulable par les informaticiens parce qu'il y en a une partie, c'était eux qui l'avaient créé. Ou en tout cas, il y avait un savoir qui s'était transmis de la compréhension du logiciel pour faire les modifications en fonction des besoins des départements qui voulaient moduler leur...
Et on a même la confirmation que ce logiciel aurait pu être vendu, donc aurait pu participer à subventionner des frais de l'université.
Si on s'en était donné les moyens, est-ce qu'ils font aujourd'hui pour la mise en place d'un logiciel qui ne marche pas et qui n'arrive pas à faire marcher ?
Voilà, c'est ça. C'est parce que ce logiciel, en fait, il a été installé donc de manière trop rapide. L'entreprise qui vend le logiciel dit qu'il faut environ 2 à 3 ans pour l'installer. Nous, on l'a installé en 1 an et on n'a pas formé les personnels pour installer ce logiciel. Donc, les gens se sont retrouvés devant un logiciel qui est plus complexe que le premier, à rien ne comprendre et à ne pas pouvoir essayer de rentrer les notes dans ce truc-là pour que les étudiants, après, aient leur diplôme, etc. Donc, les personnels ont fait des heures en beaucoup plus. Il y a aussi des enseignants, pas tous bien sûr, et qui n'ont sûrement pas été rémunérés pour ce travail effectué en plus.
À savoir que donc il y avait effectivement donc pas de formation pour permettre à un moment donné aux salariés de maîtriser leur outil de travail,
voilà.
Quoi.
En tout cas, il n'y en a pas eu préalablement. Il y en a eu quand le logiciel a commencé à s'installer, et il y en a en ce moment, etc. Mais une fois que tous les problèmes relative à ce logiciel était là, ils ont commencé à former les gens parce qu'ils pétaient un plomb sur le fait que ça marche pas. Et donc, en fait, on peut pas faire les inscriptions pédagogiques. Par exemple, en septembre, les inscriptions pédagogiques, c'est s'inscrire à un cours qu'on a envie de faire. Et on est obligé de le faire donc dans ce logiciel, comme tout logiciel qu'on le faisait très bien avant, etc. Sauf que maintenant, ça marche plus. Donc, on est obligé de revenir sur un format papier, c'est-à-dire écrire au cours... auquel on veut accéder sur du papier. Et après, eux, ils vont le rentrer pendant des heures. C'est-à-dire le personnel de chaque département va prendre des heures ou même des fois tard dans la nuit pour rentrer tout ce que veulent les étudiants comme cours.
Donc concrètement, effectivement, on parle là même de conditions salariales des gens qui travaillent à Paris 8. Et donc de quelle manière il y a des luttes qui se sont organisées sur la façon dont ça avait d'influer sur leurs conditions de salariés. Donc ces luttes-là, en fait, c'est même pas des luttes concrètement étudiantes, genre on veut garder telle chose ou telle chose. On parle de quelle manière les gens qui travaillent au sein de l'université ont dû se mettre en lutte. Et un peu comment ça s'est produit. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça aussi, quoi?
Concrètement, oui, c'est la cristallisation, c'est le reflet de tout un tas de problèmes qui existaient et qui s'amplifient de plus en plus, et par le biais d'une certaine présidence qui a aussi ses responsabilités dans l'augmentation de cette crise et par le biais aussi, bien sûr, des réformes que connaît l'université, donc, qui renforcent en fait le pouvoir de cette présidence. Donc, si on a déjà une présidence qui n'est pas forcément au mieux de ses capacités, c'est un euphémisme, pour pouvoir faire ce qu'elle doit faire, et qu'en plus, il y a une réforme qui lui donne encore plus de pouvoir, effectivement, on se retrouve dans des situations qui sont quelque peu aberrantes, où si on avait pris la peine de demander aux personnels et aux professionnels de l'université ce qu'ils pensaient de cette mise en place, ça n'aurait jamais été mis en place et on aurait fait bien des économies. Et voilà, et l'université tournerait autrement mieux. Mais après, ça, c'est encore des choix politiques, d'une part, et des choix idéologiques, parce que ça vient d'au-dessus du ministère. Par exemple, le logiciel Apogée est vendu par une agence, l'AMU, l'Agence de Mutualisation des Universités. Il y a un E, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Et donc, c'est par le biais de cette agence et par le biais plus précisément du secrétaire général de la fac qui faisait partie de cette agence, que le logiciel a été imposé, entre guillemets, au conseil d'administration, qui lui-même, suite d'incompétence, l'a voté et l'a adopté.
Ok.
Donc ça c'était pour la mise en place, on va dire, plus pratique du logiciel. Et après, je vais passer rapidement sur qu'est-ce qui ne permet pas, en fait, en termes pédagogiques, et qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on expliquait dans ce qu'a été Vincennes et les possibilités, en fait, d'avoir des cours. Parce qu'en fait, ce qu'on a appelé l'interdisciplinarité, c'est-à-dire ne pas avoir des cours dans une seule discipline, mais pouvoir aller choper ailleurs des cours qui nous intéressent. En fait, ce logiciel, il ne permet plus, parce qu'il faut modéliser le logiciel de chaque département et de chaque cursus afin de poser dans le logiciel qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, on peut prendre un exemple concret. En sciences politiques, il faut qu'il y ait un cours de ça, un cours de ça, un cours de ça, etc. Et quand on prend un cours, par exemple, qui serait hors du département, le logiciel ne le comprend pas. Parce qu'il faut qu'il soit préalablement intégré dans ce qu'on appelle la maquette, qui est en fait toute la liste des cours possibles au sein, par exemple, d'une licence. Si ce n'est pas inscrit préalablement dans le logiciel, ça, on ne peut pas l'effectuer durant son parcours. Et donc ça crée une réelle rupture. Enfin, ça nous normalise vis-à-vis des autres universités, c'est-à-dire avoir un parcours tout tracé, on rentre en histoire à Paris 1 et on a un certain nombre de cours, et à la fin, le diplôme valide ce certain nombre de cours. C'est vrai qu'à l'université de Paris 8, historiquement, on avait plus de possibilités. Et ce logiciel, en fait, réduit ces possibilités et contraint, en fait, de plus en plus les parcours des étudiants à s'homogénéiser.
Voilà, donc là-dessus, on va quand même faire... on va faire une petite pause musicale avant de revenir sur tout ça. J'espère que, principalement, ce qu'il faut à un moment comprendre, c'est de quelle manière, en imposant nationalement des logiciels et puis différentes réformes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est face à des uniformisations. Et donc, dans un endroit qui était un petit peu différent et où il y avait des tentatives d'essayer quelque chose de différent, les écarts deviennent très grands. Et donc, ça a mené à toutes sortes de luttes sur lesquelles on va pouvoir revenir après cette petite pause musicale. Voilà. Donc, à tout de suite au fond près du radiateur. This is it right here, right here. This is it right here, done. One time, let me in one time. Hey yo, now I go. Hey yo, hey yo, hey yo. I produce threats, text. The underworld sweat when I rap for my set. I pull out text and let wet. Ice drip froze on my neck. Explode with my 2G whip for wreck. Out of respect, MOBB top shit. But logic, y'all niggas know y'all can't fuck with. From past incidents, shootouts, and fist battles. Scuffle through state lines, you can't stop mine. It's a crime to the dumb, deaf, and blind. Wait before your time, out of line, niggas walk straight. When I approach mine, I rap my infamous bloodline. Niggas get your guns, it's duck time. Came from no frills and skips. Nights to gag clips. A cold, cold world to this icy hot shit. Scars. Bars, tapping niggas shit. I'm cutting them, bucking them, and fucking they bitch. You like who that nigga? A smooth cat nigga. Walk around with two gas, two nigga. Straight like that nigga. Smack that nigga. If I don't know him, then blast that nigga. The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play. I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped three. The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. Right here, done. Hey yo, let's go.
going out to my dearest, realest, coldest, most closest, holding me down. Chrome double digit caliber, never apart with it, cock and spark with it. Get down on my knees and cross my heart with it. Cause it's real when I use it to protect my life. Shit was real when he shot a nigga over his wife. To be the brakes, guns, drugs, waste. Clown try to get me pound, I threw it down in his face. I get down to any town, get down to any ghetto, anytime, spit rounds. The fuck a niggas think, yo, for the dough we can spit. My style flow sick, for them 16 balls I get in, you go quick. You don't want none of this, shit I'm hot as a bitch. Check the shit, I got them shook, now they riding my dick. Don't forget I rock for those loving it, those dugging it. Holes in they clothes and the less unfortunate.
Hey, the only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped three. The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out
and popped three. Watch me then, catch me flying in my Benz, loving it. The trade, double zero, thugging it. I was born to floor shit, but never could afford it. But now I got ones and guns to reinsure it. Reach for my spine, pull out a fucking 9 Taurus. The road to the riches, what I'm on it. All I need was the ones and my thuns, the motherfucking beats. I'm making choruses with my name be. Noid and Finasty, oh, you obsolete. Why? I got demons, that's what that D be. Check me when you see me in the streets. Believe I got toast, cause we close like Uno Dos and Floss and the Boss QB. Rep, see you ain't hear me yet, QB. Nigga, fuck me in affiliate with, I'm official. Die with the initials on my chest. Be damned if I don't rep the hood to the death.
Hey, yo, the only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped three. The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped three. The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped three. The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped three.
Voilà, vous êtes de retour au fond près du radiateur tous les mardis 19h 20h30 rediffusé vendredi de 7h à 8h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Voilà, donc là on aborde un peu la dernière partie de ce gros sujet un petit peu sur les réformes à Saint-Denis. Alors si vous n'êtes pas sérieux et que vous n'avez pas écouté le début de l'émission et tout, je vous explique rapidement. Donc voilà, on a eu l'occasion de discuter de la création un petit peu, la tentative de ce qu'était Vincennes, et dans un premier temps, donc qui était une université qui essayait de faire autre chose, et de comment est-ce que tout ça est allé dans un processus de transformation qui est celui de se mettre à ressembler aux différentes facultés et donc de rentrer dans la dynamique habituelle et globale des universités qu'on nous sert depuis des années, qui sont simplement celles d'être un outil de production des savoirs qui vise à légitimer l'État en place, hein. C'est pas non plus compliqué, et qui permet de former des gens à reproduire exactement la même chose que ce qui existait avant ou d'une autre manière un peu plus bad. Donc Léo, juste avant la pause musicale, a pu un petit peu, par une forme de constat et en nous parlant de la mise en place d'un logiciel qui s'appelle Apogée, marquer un petit peu l'écart entre cette tentative et le fait que actuellement on soit y a des problèmes locaux qui soient dus un petit peu à un pouvoir qui n'accepte plus du tout l'alternative ou la tentative d'une critique ou l'existence au sein de ces institutions, c'est-à-dire que c'était quand même une faculté, mais là on n'accepte pas au sein des institutions qu'il y ait la possibilité d'une alternative, qu'elle existe, qu'elle ait une visibilité et qu'elle marche ou qu'elle fonctionne. Voilà, il faut, si elle fonctionne, elle doit fonctionner autrement, elle doit fonctionner comme les autres universités. Et dans ce sens-là, on a bien sûr vécu à Paris 8, et les copains vont nous en parler. Les luttes qui ont été menées ces dernières années sur les différentes réformes qui sont qu'un pas de plus, hein, tout de même dans un processus global de volonté de faire un truc spécifique de l'université, quoi.
Et donc, en dehors de ce problème de logiciel Apogée qui vaut déjà pour toutes les autres facs, en réalité, on a eu la LRU, les retraites, et puis des mobilisations locales aussi, donc sur les conditions des biatos et les conditions salariales. Et là, par contre, c'est Antonin qui va nous parler un petit peu de comment tout ça s'est déroulé, quoi.
Donc voilà, on voit une forme d'uniformisation au sein de notre université. Donc rappelons-le, notre université, sa spécificité est d'être issue d'une volonté d'expérimentation, donc de nouveauté. Donc si on arrive à une uniformisation de notre université, c'est un petit peu perdre la spécificité qui fait de notre université une université qui donne envie à des gens de venir, etc., etc. Donc cette uniformisation se fait par la concurrence, en fait. Donc c'est une espèce de... On peut voir ça comme une espèce de concept développé par quelqu'un qui s'appelle Cyril Lemieux. Donc de non-dépassement par la concurrence. Donc en fait, une concurrence serait censée diversifier les universités pour proposer un choix sur lequel se font des individus, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que non, c'est aller vers un but commun parce que ce sont vers les mêmes buts que chacun de se... enfin, vis-à-vis desquels chacun doit se battre pour l'atteindre le premier, en fait. Et donc ces buts-là, ce sont la rationalisation, ce sont des processus de management, des processus de refondation de la gestion des universités avec la création de pôles. Mais en fait, tout ça, on peut monter en généralité. Donc pour monter en généralité et comprendre peut-être un petit peu plus le processus, et pour certains auditeurs qui ont envie de creuser un petit peu la question, aller voir un petit peu plus avant dans l'histoire comment ça s'est passé, donc on peut revenir sur les grandes lois qui ont fondé l'université sous la 5e République. Donc il faut quand même bien avoir dans l'idée que depuis le début de toute façon l'autonomie, parce que là la LRU, c'est-à-dire que la réforme des universités qui instaure un cadre managérial, etc., 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 c'est la loi qu'on a appelée la loi d'autonomie des universités. Mais ce mot autonomie, en fait, était déjà présent en 69 dans la loi Faure, qui, dans ses trois piliers, font de l'autonomie, la participation et la pluridisciplinarité dans les universités. Donc il faut bien faire attention, le cadre du néolibéralisme est aussi le cadre d'un changement du discours, un changement discursif et donc un changement dans la définition des mots. Donc 69, la loi Faure, les trois piliers, autonomie, etc. 84, la loi Savary. Donc on commence à voir l'entrée dans les conseils d'administration des collectivités territoriales et des entreprises. Mais le discours reste, et peut-être, si on fait une analyse comparée des différents textes législatifs, je pense qu'on peut retrouver beaucoup de similitudes entre les différents discours de ces différentes époques, de gauche et de droite, donc, vers un but plus ou moins commun qui n'était pas forcément dessiné au départ, mais qui, on retrace bien l'histoire, peut tout à fait se retrouver. Donc en fait, c'est toujours quelque part une lutte pour nous vers des conditions qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin et de dépasser le système, et une lutte envers nous d'un système qui, lui, veut continuer à se reproduire tel qu'il est. Donc en fait, on reviendrait un petit peu à une époque mais vers laquelle tout le monde a essayé à chaque fois de revenir, mais ils se sont bouffés des luttes. Donc voilà, donc 90, la loi Lang, 97, la loi Bayrou. Donc là, il y a un renforcement du cadre de contractualisation entre les universités et leurs administrations de tutelle qui sont les ministères. Et il y a les changements, il y a la mise en place de la semestrialisation, c'est-à-dire deux semestres dans une année. Donc on commence à découper les années. Donc là, on voit que ces années-là sont en même temps les années d'une modification de l'idéologie qui commençait déjà un petit peu à la fin des années 70, au début des années 80 en France, et avec la mise en place d'une Europe qui est déterminée idéologiquement. C'est pas juste moi qui le dis, c'est les penseurs de l'Europe qui utilisent cette terminologie-là. Donc 90-97, là on entre dans la création de l'Europe et la constitution de l'Europe comme entité de création du marché intérieur. Et là, l'Europe, on voit qu'elle commence à s'attaquer au service public. Donc l'enseignement étant un service public, elle commence à s'attaquer à l'enseignement et l'enseignement supérieur. Donc là, il y a tout un tas de rapports, dont celui de Attali en 98 qui propose un modèle européen d'enseignement supérieur et qui est commandé par le ministre de l'époque, Claude Allègre. Vu qu'on est un petit peu short, je ne vais pas forcément vous lire les citations relatives à ce rapport. L'intérêt, c'est un petit peu de voir le cadre de l'évolution législative pour voir un petit peu où on en arrive avec la LRU et d'où ça vient réellement, la LRU.
Donc en fait, au plus on cherche à uniformiser, au plus on essaye d'intégrer une concurrence.
C'est ça.
Que ce soit dans l'université ou entre les universités.
C'est ça. En fait, la concurrence est un modèle qui, de toute façon, homogénéise, uniformise, ne propose que les choix qui sont relatifs à ce système de concurrence. Tout choix qui serait hors marché ne peuvent pas être pris en compte.
Donc, on ancre de plus en plus ça dans un processus de capitalisme qu'on a l'habitude de voir.
Voilà, donc ce capitalisme universitaire ou ce capitalisme qui enfonce les portes de l'enseignement supérieur commence à se voir réellement en France, à la Sorbonne, n'est-ce pas, hein? 98, conférence de la Sorbonne qui donnera le processus de Bologne, qui sera repris lors du processus de Bologne. Donc là, on arrive vraiment dans les mises en place contemporaines et européennes. Hein, donc c'est lié, c'est pour tous les pays européens. Donc processus, conférence de la Sorbonne en 98, processus de Bologne en 99, toujours appuyé par le ministre français de l'époque, Allègre. Hein. Donc il y a 46 pays qui sont signataires de ce processus-là. 46, hein, donc ça dépasse largement le cadre des pays européens. On voit un petit peu l'uniformisation idéologique d'une place qui serait plus grande que continentale. Les objectifs de ce processus sont la refonte des diplômes sur un modèle unique, donc pour plus de lisibilité, une division des cursus universitaires avec les pré- et les post-licences, et la mobilité des étudiants, et la logique d'insertion sur le marché du travail. Donc on retrouve un petit peu tout ce qu'on va retrouver là, en fait, depuis les 10 dernières années, pas spécifiquement sur l'université, sur tous les services publics, mais là, en tout cas, sur l'université. Donc voilà, après les réformes, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu universitaire depuis les dernières années, donc là, on rentre vraiment dans la modernité avec les LMD, licence, master, doctorat, donc la fondation du système européen par la refondation du système français, ou la maîtrise. Le DEUG sont supprimés, et où il y a un nouveau format du doctorat qui va arriver aujourd'hui à être en 3 ans, alors qu'on peut reciter des grands auteurs du genre Bourdieu qui l'ont fait en 10, voire plus d'années. Bon bref, ça c'était juste pour passer avec la mise en place d'un système ECTS.
Donc en fait, un renforcement d'une idée de productivité.
C'est ça.
Quoi.
Voilà, donc là, 2003, on arrive vraiment à la série de lois qui comporte 3 lois, donc le LMD, la loi Lopri qui va être faite pour l'orientation et la recherche et l'innovation, qui va créer les PRES, les pôles de recherche d'enseignement supérieur, et la LRU en 2007. Donc voilà. Le LMD, Lopri, LRU. LRU en 2007 avec modification de la gouvernance, où le président concentre les pouvoirs, où le seul conseil qui était vu auparavant comme les conseils. Il y a 3 conseils dans les universités, le conseil scientifique, le conseil des études de la vie universitaire et le conseil d'administration. Ces 3 conseils, initialement, étaient vus comme des contre-pouvoirs à la présidence et à son cabinet. Il s'avère aujourd'hui, avec ces modifications structurelles de l'organisation d'une université, que le seul conseil qui a un pouvoir réel maintenant dans l'université au vu des textes est le conseil d'administration, et que celui-là coopte de toute façon le président au vu des jeux de pouvoir qui se déroulent.
Donc en fait, quelque part, tout ça, ça nous permet de comprendre de quelle manière, quelque part, la LRU, c'est juste le moment où on va donner le pouvoir, on va centraliser le pouvoir sur le directeur de l'université, faire rentrer des entreprises,
voilà,
de façon à mettre en place juste tout ce qui était prévu depuis 35 ans. Là, c'est bon, on vous a rentré la disquette.
Donc il y a 3 dynamiques. Il y a une autonomisation de l'établissement, en fait, pour permettre une concurrence. Hein, ça s'est vu dans la privatisation de pas mal de services publics. Il y a une logique de dépenses. Des dépenses de l'État, en fait, une logique de création d'un marché concurrentiel de l'enseignement, et voilà. Et donc ça, ce sont les 2 grandes logiques qu'on peut retrouver par le biais de ces trois lois-là, LMD, Lopri et LRU, et dans lesquelles nous, on arrive aujourd'hui avec la possibilité de la mise en place, par exemple, à l'Université de Paris 8 et l'achat d'un logiciel du genre Apogée, la possibilité d'un président de pouvoir œuvrer de telle manière à ce qu'il mette une pression sur tous les personnels qui avant avaient du pouvoir, la possibilité d'une refonte du cadre organisationnel de l'université avec des nouvelles directions qui coupent complètement court à... la possibilité de prise d'initiative qui était inhérente à notre université de la part des personnels ou des responsables et de la part des services, de pouvoir un petit peu autogérer son travail. Donc on voit un petit peu le rapport entre, qui est un rapport qu'on est en train de vivre, donc on ne peut pas le distinguer clairement, mais on voit quand même, de par toutes les luttes que nous vous avons décrites, le rapport entre cadre idéologique qui se met en place et changement dans une fac bien particulière, un changement singulier.
Voilà. Tu veux rajouter un truc, je crois.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est au-delà du fait que ce logiciel, c'est l'illustration parfaite d'un mouvement beaucoup plus global qui touche tous les services publics et qui s'étend dans toute l'Europe. Plus pratiquement, en fait, ça atomise chaque cellule et ça fait en sorte que les luttes, notamment sur la région parisienne, notamment au niveau des universités, sont beaucoup plus difficiles et que les connexions se font beaucoup moins facilement. Voilà.
Ok, et ben voilà, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir ? On peut dire tout simplement que voilà, plusieurs fois on vous a parlé de la LRU dans cette émission, que c'est compliqué, que ça semblait compliqué à comprendre parce que ça s'inscrivait dans tout un processus, qu'il a essayé d'être décrit d'une façon particulière pour qu'on arrive à le choper concrètement et à voir un petit peu vraiment ben voilà, comment ça marche, parce qu'à un moment donné c'est toujours assez complexe de vraiment comprendre et avoir une prise sur une situation. Et un seul truc les mecs, pour terminer, quand on commence à avoir prise sur la situation, on commence à pouvoir faire un truc dedans, à mettre les mains dans la merde et à foutre un petit peu le bordel. Donc on espère que voilà, on pourra, si on rediscute de ça et de l'université, discuter de lutte qui se passe à l'intérieur. Sur ce, en cette fin d'émission, on enchaîne directement avec la rubrique FAF.
De retour sur Au fond près du radiateur 106.3 FM et tout de suite la rubrique FAF.
FAF.
Qu'est-ce qu'il y a ?
La rubrique FAF.
Je traque les FAF.
I'm reading.
Voix de gauche, même son de client qui sonne faux.
C'est un scandale.
Je traque les FAF.
Pas 4 petits en uniforme.
Je traque les FAF en costard.
Les partis politiques pilotent.
Dans la gauche caviar. La droite de la droite au pouvoir.
Délation France aux Français.
FAF.
FAF.
Profit. Corruption.
FAF.
FAF.
Tu veux mon nom,
c'est... Au fond près du radiateur.
Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Vous êtes de retour au fond près du radiateur dans la rubrique FAF.
Donc, et ce soir, c'est Meto qui l'a fait.
Voilà, voilà. Donc, de retour dans la rubrique FAF, on va continuer à parler de lutte. Mais comme on est dans le cadre de la rubrique FAF, on va parler de lutte FAF pour le coup, de lutte de professeurs. Donc, sur un sujet qui est leur notation, donc, qui est ce qu'ils notent.
Par qui eux-mêmes sont notés.
Par qui ils sont notés. Donc il y a une loi qui est déjà depuis avril 1960, qui était actuelle jusqu'à septembre dernier, 2011. Donc qui consistait, donc les profs étaient notés, la note était répartie en deux points. Donc la première, c'était une note pédagogique qui était en fonction des diplômes des professeurs, donc que ça soit la GREG, le CAPES et tout ça, qui était, donc cette note-là c'était les 60% de la note. Bon, ça c'est une autre histoire, pourquoi est-ce qu'un note devrait avoir plus d'avancement parce qu'il a fait...
Parce que ce soit une histoire de formation, voilà, plutôt qu'une histoire de ce qu'il fait. Ouais.
Voilà, exactement. Et une note d'inspection, donc, qui consiste à se faire évaluer pendant une heure de cours, voire moins, et un entretien d'à peu près une heure aussi par un inspecteur, donc qui est envoyé par le rectorat environ tous les 4-5 ans. Donc cet inspecteur, sur quels critères il juge le professeur ? Il le juge donc sur le comportement du professeur et sur les conseils que l'inspection avait donné lors de la dernière inspection, justement. Donc ça, c'est l'un des critères. Il juge aussi sur l'assiduité du professeur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'assiduité d'un professeur ?
Je sais pas, est-ce qu'il est assez autoritaire ?
On y arrive. Il y a quelque chose qui s'appelle rayonnement et autorité. Rayonnement, ne me demandez pas ce que ça veut dire autorité, on le sait tous. Et donc c'est l'un des critères d'évaluation. Et sur l'efficacité, donc comment est-ce qu'il arrive à... comment ses élèves progressent au fur et à mesure de l'année. Donc à partir où cette note où l'inspection a eu lieu, il y a une mise en commun de toutes les notes, donc en fonction des disciplines des professeurs, donc que ça soit enseignant en maths, en français et tout ça, et en fonction et par académie aussi. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est les syndicats de professeurs et le rectorat qui prennent les décisions sur la note donnée aux professeurs. Donc cette note sur 100. Donc la note, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet aux professeurs de gravir les échelons, dans le sens propre du terme, parce qu'il y a 11 échelons dans le métier. On monte les échelons grâce à l'ancienneté et grâce justement à ces inspections où ils donnent des avancements, justement. Et donc à partir du moment où les notes sont données, les 30% des meilleures notes, enfin les 30% des notes qui sont en haut, elles ont de l'avancement. Donc elles gagnent de l'expérience et donc augmentation de salaire et tout ce qui s'ensuit, ce qui creuse un écart de salaire.
Ah, donc c'est pas ta note en soi qui te fait avancer, c'est, c'est est-ce que t'es dans les 30% meilleurs au sein de toutes les notes.
Exactement.
Ok.
Et donc, il y a aussi une minorité de profs qu'on peut appeler des premiers de la classe ou bien des gros suceurs, comme on veut, qui demandent à être inspectés, qui appellent de leur gré l'inspecteur et disent « Moi, je fais un super taf, mieux que ceux de mon académie. Pourquoi est-ce que tu viendrais pas voir si je peux avoir un petit peu de thunes en plus ?» Donc voilà, ça, c'était la loi qui était en vigueur jusqu'à septembre dernier. Et donc, à partir de septembre dernier, Luc Châtel, qu'on connaît bien dans cette rubrique, a décidé de faire passer une loi donc, qui consistait en fait, à changer la notation. Et donc, s'il y aurait actuellement, donc, ce qui se passe actuellement, c'est une note, donc, toujours dans le principe de la notation, qui est donnée non plus par des inspecteurs, mais par le chef d'établissement. Donc après un entretien chaque année où il juge, et non plus par discipline maintenant, il juge en fonction de, enfin il juge les professeurs
de son
établissement.
En fonction de si tu l'as invité à la campagne un peu. Quoi.
Voilà, plus ou moins. Enfin pas il juge, mais c'est sur sur ses professeurs qui sont dans son établissement. Et donc aussi en fonction de si tu l'as invité à la campagne ou que, voilà. Mais donc le proviseur, lui... Il garde un peu ses critères, mais il les formule non plus sous forme de critères à proprement parler, mais ils appellent ça des objectifs. Donc c'est la réussite des élèves, l'autorité, on revient plus ou moins, c'est un peu plus camouflé, on va dire. Et donc suite à ce bilan qu'il fait avec chaque professeur, c'est lui qui délivre une note, et cette note, donc, elle te fait plus gravir les échelons, parce qu'on enlève ce système d'échelons, mais on parle de mois d'ancienneté. C'est-à-dire que si tu as une bonne note, tu gagnes des mois d'ancienneté, donc que tu accèdes plus rapidement à un meilleur salaire, ce qui a pour conséquence de creuser l'écart de salaire qu'il peut y avoir entre les professeurs, c'est-à-dire qu'un professeur cancre... Il peut rester 40 ans tout en bas de l'échelle avec à peine son SMIC ou ne serait-ce qu'un peu plus. Donc suite à cette loi, il y a eu une première manifestation le 15 décembre 2011, mais uniquement à Paris, et donc qui était aussi pour les suppressions de postes, parce qu'on est en plein dans la période où ils parlent de ces suppressions de postes, mais aussi donc pour ces évaluations, et une beaucoup plus récente, donc le 31 janvier, c'est-à-dire mardi dernier, et donc justement où c'était encore ces suppressions de postes, mais aussi cette évaluation, et dans ce cadre-là, c'était les syndicats qui appelaient et qui dénonçaient sur cette nouvelle loi donc, consiste à donner tout le pouvoir au chef d'établissement, une pratique totalement managériale de ce chef d'établissement. Et aussi, bien sûr, sous-entendu qu'eux, ils n'ont plus du tout leur mot à dire sur la notation des professeurs. Donc, logiquement, eux, ils
ont le seum aussi.
Voilà, ils ont bien le seum. Mais ça, ils le disent un peu moins. Mais
nous, on le dit.
Mais voilà,
nous,
on le dit, on le sait. Et donc, qui est-ce qui était à cette manif ? C'était des professeurs donc, qui luttaient contre cette nouvelle loi FAF, mais qui voulaient revenir à l'ancienne loi compétitive totalement, qui était aussi FAF, qui est là depuis 1960. Et en fait, voilà, la notation, c'est vraiment un piège à con, quoi. C'est
voilà.
comment mettre en concurrence tout le monde.
Voilà, et la morale de cette histoire, c'est les profs sont décidément des bolos. Et on terminera là-dessus cette émission au fond près du radiateur, parce qu'il est l'heure qu'on termine. Alors, on va redonner les adresses.
Voilà, on va redonner vite fait même d'abord les rendez-vous. Il y a demain, mercredi 8 février à 18h, donc métro Agnières-Gennevilliers-Courty à 18h, je l'ai dit. On n'a pas encore le lieu exact, mais une conférence de presse concernant donc, le décès de Jamal. Voilà, ce sera important de s'y rendre. Le samedi 11 février à 14h, devant le ministère de la Justice, place Vendôme, métro Opéra, il y a une manifestation appelée par le collectif collectif Vérité et Justice pour Aboubacar Tandja. Et donc ça sera aussi important de s'y rendre, et on en reparlera bien sûr, bien évidemment, dans les prochaines émissions. Pour vous dire aussi que dans la prochaine émission, on passera sûrement du son encore sur l'affaire de Wissam El Yamni, qui est mort à Clermont-Ferrand, toujours sur ces histoires de crimes racistes et sécuritaires. On fera aussi un point sur l'Égypte et la mobilisation place Tahrir suite aux événements, suite à un match de foot à Port Saïd. Et voilà, hein, tout est dit. On rappelle juste les adresses. Aufondprèsduradiateur.fr, c'est le site internet où vous pouvez télécharger les émissions. Et Aufondprèsduradiateur en minuscule, tout en attaché, sans accent, @no-log, c'est pour les mails et tout ce qui s'ensuit. no-log.org. Voilà, excusez-moi.
Voilà, on s'en sort pas.
Et on dit un grand merci à tous ceux qui sont venus ce soir.
Merci pour l'invitation.
Yes.
Merci bien. Spéciale dédicace à Marion. Hein, c'est pas grave, on t'a à regretté, mais à Paris 8, notre fac aussi qu'on aime. Et à tous ceux qui se reconnaîtront.
Et ouais, on a parlé de notre situation, c'était un peu pessimiste, mais on est là et on se tape. Et voilà, Cimer pour l'invite encore.
Pas alors, dédicace à tous les gens qui se tapent, voilà.
Exactement.
Dédicace à vous tous, les gars. Dédicace à Sarah, Mouloud, Tom, Mayan, Saka, Maya, les darons de Maya.
Les cheminots, à tout le monde, à tous ceux qui sont derrière les barreaux et qui ressentent le froid encore plus que nous en ces temps-ci et qui se battent pour qu'il y ait un minimum plus de chaleur dans les prisons. On leur passe une grosse dédicace. Tout de suite, il y a Zéro Hebdo qui prend le relais. Nous, on est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 du mat.
Et salut, à mardi prochain.
Ciao.
Salut.